Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Pour traverser la pandémie, nous avons bénéficié des avancées scientifiques, notamment en matière de vaccination avec les vaccins ARN messagers. La recherche scientifique a également beaucoup appris du côté de la gestion de la santé publique, des inégalités et des vulnérabilités de certaines franges de population, les aînés en tête. L'accès parfois difficile aux soins, l'importance de l'école, mais aussi une bonne qualité de l'air dans les classes ou encore la collaboration entre les équipes de recherche, des leçons sans doute encore utiles aujourd'hui dans notre climat de polarisation sociale. Qu'en retiennent les chercheurs et les chercheuses du côté des savoirs et aussi de la communication de la science au grand public en temps de crise? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous revenons sur les traces laissées par la COVID-19 au Québec et ce que la pandémie a apporté à la recherche scientifique. Pour en parler, je suis en compagnie de Daniel Maltais, professeur émérite de l'Université de Québec à Chicoutimi et titulaire de la chaire de recherche sur les événements traumatiques, la santé mentale et la résilience. Bonjour, professeur Maltais.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Benoît Masse, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et responsable du programme de doctorat en santé publique. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie d'Andrés Finzi, professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie, immunologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et responsable de l'axe immunopathologie au centre de recherche du CHUM. Bonjour.
Bonjour.
La pandémie a souligné l'importance de la science fondamentale, de la santé publique, du soutien des proches aidants et du milieu communautaire, des secteurs de la recherche qui ne bénéficiaient pas de gros budgets. Nous avons beaucoup entendu « le monde ne sera plus jamais le même après la pandémie ». Alors de votre côté, peut-être d'abord, professeur Masse, qu'en est-il pour la santé publique depuis la pandémie? Est-elle plus considérée, plus financée qu'auparavant?
Ben, plus financé, je vous dirais, si on parle du Québec, c'est certain, c'est toujours un enjeu parce que on connaît les budgets viennent de la source où qu'on utilise également pour traiter les patients, et donc c'est certain que on connaît la situation au Québec et c'est très difficile d'avoir, si on veut, une augmentation conséquente des budgets en santé publique. Par contre, il y a eu des initiatives pendant la pandémie, de mettre en place des structures par le Fonds de recherche du Québec, par exemple, l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, qui a été mis en 2020, très tôt dans la pandémie, le financement demeure, et c'est sûr qu'on s'est éloigné un peu de l'impact de la pandémie sur les enfants et de la santé mentale et des effets des fermetures sur les écoles. Les écoles sur les enfants, mais c'est certain que ces structures-là demeurent. Donc, on a des acquis.
Ce qui est une bonne chose. Et
oui,
peut-être
très bonne
chose. Et de nouveaux outils aussi.
Ben, si on regarde les outils en santé publique, c'est sûr qu'on a vu apparaître durant la pandémie la surveillance, par exemple, par les eaux usées, pour détecter des pathogènes, que ce soit le SRAS ou la COVID, ou mais d'autres. On est capable, avec la même technologie, si on veut, de détecter des pathogènes ou d'identifier des secteurs ou des régions d'une ville ou d'une province qui voit une montée de certains pathogènes. Alors ça, c'est demeuré, on l'utilise encore. C'est apparu principalement pendant la pandémie, cette technologie-là. Ça a été testé même au tout début de la pandémie et c'est avéré très efficace. On n'est pas les seuls à utiliser ça. C'est utilisé beaucoup à travers le monde également.
Donc, ce sont des acquis. Professeur Maltais, qu'est-ce qui a changé dans la manière dont vous faites de la recherche et qu'avez-vous appris du côté de la santé mentale et de la résilience?
Je pense qu'on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Puis, pendant la pandémie, on a aussi étudié des populations qui étaient faisaient peu d'intérêt de recherche avant. Je pense qu'aussi, ça a sensibilisé les organismes subventionnaires à l'importance de faire des recherches sur les conséquences des catastrophes. Mais moi, ce que j'ai constaté, ben, ça a été bien, très bien, là, pendant la pandémie, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de subventions de recherche qui ont été accordées dans différents domaines. Et il y a eu moins d'attentes, dans le fond, dans la réponse des subventions qui étaient accessibles. Donc ça, je pense que c'est un bon point que ça a rendu possible par rapport à la pandémie. Ça a vraiment été un avantage pour les chercheurs. Il y a aussi beaucoup de liens entre établissements et entre universités, peut-être, qui ont augmenté dans le cadre des recherches qui ont été faites pendant la pandémie. Donc, moi, je pense que c'est un point positif par rapport à ça. Puis, je pense aussi qu'il y a différents professeurs, chercheurs qui ont été sensibilisés à l'importance des études sur les conséquences des catastrophes, que ceci soit naturel, technologique, ou que ce soit suite à une pandémie. Je pense qu'il y a une sensibilité accrue par rapport à ces phénomènes-là qu'on a pu constater.
Oui, ce sont des bonnes choses. Il y a eu des opportunités de recherche dans plusieurs domaines de recherche antérieurement négligés. Professeur Finzi, ça nous a rappelé l'importance de la recherche fondamentale et de bien la financer, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Donc, les gouvernements se sont bel et bien tournés vers la recherche fondamentale parce qu'il fallait absolument tout développer en un temps record pour étudier un nouveau pathogène, un nouveau virus pour lequel qu'on ne connaissait pas. C'est grâce aux avancées des recherches fondamentales lors de la pandémie des SRAS en 2003 qu'on a pu commencer plus rapidement sur le SRAS-CoV-2. Mais bien qu'il y a eu une augmentation au niveau du financement de la recherche fondamentale et translationnelle lors de la pandémie, ce serait bien que cet élan-là continue et ce ne s'arrête pas. Je pense que chaque dollar investi en recherche fondamentale et translationnelle, mais c'est de l'argent qu'on va sauver plus tard, notamment si on peut informer la santé publique plus rapidement.
Oui, est-ce que la pandémie a renforcé le continuum de recherche dans votre domaine?
Absolument. Ça a créé des nouvelles collaborations d'un point de vue provincial, fédéral ou à l'international. Et des chercheurs de différentes thématiques se sont mis ensemble pour essayer de répondre à une question urgente pour informer la santé publique en temps réel, si vous voulez, pour avoir une idée de la propagation des virus dans la population. Et pour ça, il fallait développer des tests sérologiques, par exemple, avec très peu, hein, parce qu'il fallait préparer tout ça au début 2020, lorsque la séquence du virus avait été publiée.
Oui, oui. Je veux revenir sur la santé des enfants, peut-être des adolescents aussi. Professeur Malte, tout le monde n'était pas dans le même bateau, n'est-ce pas? Je pense d'abord aux élèves en difficulté d'apprentissage, puis aux effets néfastes du confinement à domicile et de fermeture des écoles. Parlez-nous-en un peu.
Ben, nous, ce qu'on a constaté, parce qu'on a fait des études là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, on a constaté que, dans le fond, que l'écart entre les élèves performants et les élèves en situation de difficulté académique, c'est pas mal accentué pendant la pandémie, puis cette différence-là est encore présente actuellement. Donc là, il y a eu quand même un retard qui a été fait, dans le fond, au niveau des élèves en difficulté. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les élèves en difficulté, lorsque c'est eu le temps au mois de mai de retourner à l'école, ben ils sont pas retournés, ils sont restés chez eux. Et là, ça a pas aidé les parents, où il y a eu une surcharge, au fond, mental par rapport aux parents pendant la pandémie avec les fermetures d'école, parce qu'il fallait gérer les travaux scolaires de ses enfants et tout ça, puis il fallait aussi gérer, comment on pourrait dire, les enfants qui ne voulaient pas, dans le fond, qui accordaient peu d'importance, dans le fond, au suivi qui était fait par vidéoconférence. Donc, on a constaté ça, puis on a constaté aussi que la santé mentale des adolescents, surtout le confinement à domicile, a eu des impacts très négatifs chez les adolescents. Et chez les jeunes adultes aussi, et surtout, à mon avis, chez les adolescents, parce que le soutien social, puis les échanges avec les pères est très important à cet âge-là, et je pense qu'il y a des adolescents qui ont été vraiment très isolés et qui ont souffert énormément de cet isolement-là. Donc, on peut dire ça par rapport aux enfants puis aux adolescents. Et je pense aussi qu'aux jeunes adultes, il y a aussi, les jeunes adultes au niveau universitaire, collégial aussi, ont eu quand même des difficultés, puis il y a eu plusieurs abandons d'études pendant cette pandémie-là, en raison, dans le fond, de l'absence de liens sociaux qui étaient établis, parce que les cours par Zoom, tu peux pas développer des liens sociaux très forts. Mais il y a eu quand même des effets aussi positifs au niveau familial chez certaines familles, parce que là, il y avait plus de temps accordé à leurs enfants. Les enfants ont développé des nouvelles habiletés, par exemple, dans la préparation des repas. Il y a eu plus de temps consacré à ces enfants. Donc, je pense qu'il faut, quand on fait des études sur les conséquences des catastrophes, je pense qu'il faut regarder les effets négatifs, mais aussi les effets positifs pour donner l'espoir, dans le fond, aux individus. Et je pense que, malheureusement, il y a plusieurs individus qui n'avaient pas de connaissances, puis que de connaissances sur les conséquences des catastrophes antérieures et tout ça, et qu'il y a peu d'attention qui ont été accordées chez certains des chercheurs par rapport à ces effets-là.
Oui, oui. Mais c'est ça, c'est bien de rappeler le côté positif aussi des choses. Professeur Mas, il y a eu la création justement d'un observatoire pour l'éducation des enfants. C'est quelque chose qui est resté. Parlez-nous peut-être de cet acquis.
Mais c'est certain, au début, le focus était beaucoup sur le côté infection, le côté de la COVID, le côté des fermetures et l'impact. Là, mais évidemment, on s'éloigne présentement de ces enjeux-là. Et là, on se concentre sur la santé mentale de façon plus générale, les inégalités sociales. C'est certain c'était quelque chose qui était étudié avant la pandémie, mais on s'aperçoit qu'il y a, on l'a observé là, pendant les grandes campagnes de vaccination au Québec, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs segments de la population, plusieurs régions qui étaient, si on veut, beaucoup moins vaccinés que d'autres segments de la population. Donc, on sait qu'il y a des inégalités. On savait qu'il y a des inégalités en termes d'accès aux soins de santé et c'est la même chose dans les écoles aussi en termes de services, d'accès. Donc, on a dévié, si on veut. On se concentre toujours aussi sur le groupe qui a souffert le plus, là, comme le professeur Maltais décrivait là, pendant la pandémie. Mais aussi, on s'attaque à d'autres problèmes de santé, notamment, par exemple, l'obésité infantile, l'obésité chez les enfants, nos adolescents beaucoup... bouge beaucoup moins.
Ah oui, les écrans, hein?
Oui. Et c'est un problème non seulement au Québec, mais c'est quasiment un problème au niveau mondial. Malheureusement, lorsque ces enfants-là vont atteindre l'âge adulte, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de pression aussi sur le système de santé.
Professeur Finzi, il y a eu donc des collaborations entre les laboratoires autrefois en concurrence ou du moins qui ne travaillaient pas ensemble ou dans un but commun. Racontez-nous un peu les collaborations que vous avez vécues et qui se poursuivent peut-être, vos acquis.
Par exemple, on a travaillé avec des personnes qui travaillaient à l'université Yale, qui avaient accès à certaines technologies qui sont un peu plus difficiles d'accès ici, comme la cryo-ET, donc microscopie électronique cryogénique, qui permet de voir comment un anticorps thérapeutique notamment, peut lier et bloquer les virus. Ça devient intéressant parce que ici, au Centre de recherche du CHUM, on a développé des anticorps thérapeutiques qui ont bien réussi en phase clinique. On voulait bel et bien comprendre comment ils fonctionnaient. Et des fois, on dit une image vaut mille mots, mais bon, c'est une image à un niveau atomique, c'est assez difficile d'obtenir la résolution. Puis en travaillant avec des copains à l'université, avec des collègues de l'université de Yale, on a réussi à aller chercher des informations qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. De même avec des collaborateurs de l'université d'Ottawa, de l'université Laval. Et maintenant, on est en train de prendre toutes ces collaborations-là qui sont mises en branle lors de la pandémie de COVID-19, mais pour s'attaquer à un autre problème potentiel, notamment les virus de la grippe aviaire. Et donc, on essaie de se prendre à l'avance, de développer des outils pour, si jamais il y a des éclosions, être prêt. On espère pouvoir aider la santé publique, puis on espère aussi développer des anticorps qui pourraient potentiellement aider notamment des personnes immunosupprimées, comme ça avait été le cas lors de la pandémie. Donc, vraiment, pendant un moment, comme vous l'avez dit, les compétitions qui peuvent potentiellement avoir ont été laissées de côté. Et on s'est mis tous à travailler dans le but commun d'aider à passer à travers cette pandémie-là. Et certaines de ces collaborations sont restées et ont fait avancer la recherche chacun dans nos domaines respectifs. Mais ça permet aussi de se préparer aux prochaines pandémies.
Et comment ça se passe avec le gouvernement Trump et les nombreuses coupures que nous vivons actuellement? Est-ce que ça contrevient justement à ces collaborations ou...
C'est très très difficile à plusieurs égards. Notamment, ils ont un problème avec la recherche sur la vaccination. Mm-hmm. un problème avec la recherche sur la technologie ARN messager. Je veux rappeler que les vaccins qui ont été déployés en Amérique du Nord et qui ont fait une différence énorme, c'était le vaccin ARN messager. Cette recherche est stoppée présentement aux États-Unis puisque le fonds de santé de NIH, National Institute of Health, l'Institut de santé américain, ne finance plus ce type de recherche, dont certains collaborateurs sont affectés grandement par ce type de coupure. Et ici, de ces côtés-ci de la frontière aussi, il y a eu certaines restrictions pour envoyer de l'argent à l'étranger qui, bon, effectivement, ça affecte le financement des laboratoires, dont le mien. Donc, essayer de trouver des alternatives pour aller de l'avant avec la recherche, mais ça a un impact majeur, notamment en préparation au niveau de différentes pandémies. Il y avait des programmes extraordinaires financés par le NIH pour développer des antiviraux à l'avance, en pandemic preparedness, donc des antiviraux contre différentes menaces virologiques qui pourraient subvenir. Et ça, du jour au lendemain, ça a été bloqué. Donc, il faut que le Canada et des autres pays mais ils soient à l'auteur des défis et qu'on investisse, je l'espère, massivement en recherche parce que ça rapporte à la société.
Oui. Professeur Mas, est-ce que vous sentez, vous, du côté de la santé publique, ces freins-là aussi actuels?
Mais c'est certain que toute l'information négative qu'on entend des États-Unis, ben, il y a un certain effet sur la population canadienne, la population québécoise, de se poser des questions, à savoir si les vaccins sont vraiment efficaces. Et en fait, les Américains, je dirais le gouvernement américain, surtout questionne la sécurité des vaccins. Et ben, il y a beaucoup de parents, par exemple, qui vont nous questionner à savoir est-ce que c'est vraiment utile de vacciner nos enfants? Est-ce que c'est vraiment utile tous les vaccins? Là, si vous regardez le calendrier de vaccination d'un enfant qui a entre 0 et 6 ans, ben, il reçoit beaucoup de vaccins. Donc, on a à travailler en santé publique sur notre message, sur notre communication. Il ne faut pas se rendre au point où on est... Où les États-Unis se trouvent présentement. Donc, il faut y aller de façon plus réactive et en étant très clair dans nos messages de santé publique, en étant très clair que les vaccins ont toujours un risque, mais que ce risque-là est excessivement faible pour la plupart des vaccins. Mais qu'on soit prêt à répondre aux questions. Et alors, lorsque les parents posent des questions, il faut être prêt à répondre.
Oui. Professeur Malte, je voudrais revenir avec vous sur les inégalités sociales. Comment y faire face dans ce type de catastrophe et comment on travaille peut-être en amont maintenant qu'on a traversé la pandémie, qu'on est dans l'après?
Ben moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport aux inégalités sociales, ce qu'on s'est rendu compte, entre autres, c'est que, bon, comme on l'a dit tantôt, la propagation du virus était plus importante dans les quartiers plus défavorisés. Ouais. Dans ces quartiers défavorisés-là, il y avait moins de soutien social qui était offert, dans le fond, aux communautés. Et les personnes qui ont plus à faible revenu ou qui ont des conditions, je dirais, sanitaires ou des conditions domiciliaires qui sont déficientes, ben, dans le fond, ils ont plus de difficultés dans leur processus de rétablissement. Donc, je pense qu'il faut vraiment apporter une attention particulière donc aux inégalités sociales puis essayer de voir, dans le fond, dans certains quartiers, qui sont ces personnes-là et comment on peut les aider. Et je pense que la collaboration entre les institutions publiques et les institutions communautaires pourrait s'accentuer effectivement pour apporter plus de services, de soutien, plus d'informations aux communautés qui sont plus défavorisées au niveau du revenu, au niveau des services qui sont offerts, etc. Donc, je pense qu'il faut être plus sensible par rapport à ces inégalités sociales-là. Puis, dans le fond, accepter aussi le fait qu'il y a des inégalités sociales au Québec. Puis, il faut apporter une attention particulière à certains types d'individus, à certains types de communautés. Puis, développer plus de services dans certains quartiers. Donc, c'est ça. Je pense que l'entraide aussi entre citoyens, entre... Mm-hmm. voisins. Dans le fond, toutes les politiques de bon voisinage pourraient être aussi développées dans ces quartiers-là, dans des quartiers plus défavorisés. Ce que j'aimerais aussi souligner par rapport à la pandémie, c'est que ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'une fois qu'on interdit les personnes âgées de sortir de leur domicile, c'est qu'on interdit à des centaines et plusieurs centaines de bénévoles de ne plus être bénévoles dans les organismes communautaires. Donc là, il y a eu un choc aussi chez les organismes communautaires pendant la pandémie, parce que la grande majorité de leurs bénévoles ne pouvaient plus offrir leurs services. Et donc, ils ont été pris avec des nouveaux bénévoles qui étaient à la fois bénéficiaires et à la fois bénévoles. Donc, ça a augmenté la charge de travail des intervenants.
Oui, et la santé, peut-être des problèmes de santé mentale aussi.
Oui, c'est ça, puis aussi, ça nuit à la santé des intervenants eux-mêmes. Je pense qu'il faut pas oublier non plus, lorsqu'il y a une pandémie, lorsqu'il y a une catastrophe, que ce soit naturelle ou technologique, c'est qu'il y a des gens qui côtoient quotidiennement des personnes en très grande difficulté, puis ça a des impacts aussi sur leur santé mentale et santé physique. Donc, je pense qu'il faut apporter une attention particulière à ce niveau-là.
Oui.
Je sais pas.
Oui, tout à fait.
Répond à votre question, là, mais
tout à fait.
Je voulais quand même apporter
oui.
C'est ça, puis je voulais aussi souligner que la pandémie nous a rendu compte aussi que les aidants familiaux étaient une ressource fondamentale dans les CHSLD, dans les résidences privées pour personnes âgées, et qu'il ne faut pas, s'il y a d'autres circonstances telles que d'autres pandémies, dans le fond, il faut tenir compte de ces aspects-là qui sont importants.
Donc, des aînés et des proches aidants. Professeur Finzi, oui. Une autre chose qu'on a appris, c'est l'importance de mieux communiquer les résultats de recherche, n'est-ce pas?
Absolument. Donc, c'est quelque chose que souvent, malheureusement, les chercheurs fondamentaux, on a un peu de difficulté à communiquer. L'importance, il faut dire que les subventions qu'on obtient pour faire notre recherche, c'est l'argent qui vient de la population. Donc, c'est tout à fait normal qu'on communique les résultats de cette recherche pour retourner aux personnes qui financent les travaux, qu'est-ce que ça donne et quelle est l'importance. Et cette pandémie-là a été une occasion de peaufiner ou d'améliorer nos communications, mais il y a énormément de travail à faire de la part de pas mal tous les chercheurs, je dirais, de mieux communiquer, d'expliquer pourquoi nous avons besoin de données probantes avant de conclure certaines au niveau de certains résultats, et notamment au niveau des réponses immunitaires, comment les vaccins fonctionnent, qu'est-ce qui peut être associé à une bonne protection, etc. Et donc ça, je pense qu'il faut en participer davantage à mieux communiquer. C'est une façon aussi d'éduquer un peu le public, comme ça, lorsqu'il y a une catastrophe, une pandémie, mais ils puissent avoir confiance dans les résultats probants générés par la recherche qui est financée par eux.
Est-ce que vous participez un peu plus à la vulgarisation? Est-ce que vous dites oui plus facilement, par exemple, aux journalistes qui vous interrogent?
Oui, je le dis plus facilement, mais je m'abstiens par contre de parler des sujets sur lesquels je ne pense pas avoir une expertise qui va au-delà de ce que monsieur et madame tout le monde. On peut tous avoir des opinions, mais je vais dire oui plus souvent, mais évidemment lorsqu'il s'agit de mon expertise.
Oui, évidemment. Professeur Mas, parmi les défis donc, que nous a appris la pandémie, reste celui de la communication. Il faut apprendre à mieux communiquer la science. Comment on fait ça?
Ben, c'est certain qu'il faut vulgariser. Il faut être honnête aussi. Je pense que ce qu'on a observé durant la pandémie, c'est la population était un peu, je dirais, surprise que la science, il y a autant d'incertitudes. On peut penser que telle action va donner telle action, mais qu'en bout de ligne, il y a beaucoup d'incertitudes dans ces décisions-là, dans ces recommandations-là qui peuvent être faites par des scientifiques. Alors, c'est excessivement important de communiquer à la population qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Le niveau des évidences n'est pas le même. On peut avoir énormément d'évidences pour l'efficacité d'un vaccin, par exemple, comme la rougeole. L'efficacité du vaccin, là, on a énormément d'évidences et il n'y a presque plus d'incertitude sur son efficacité. Pour d'autres choses, par exemple, si on pense aux fameux, par exemple, si vous vous souvenez des fameux couvre-feux qu'on a eu au Québec, qui ont été très longs, parmi les plus longs, je dirais, sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'évidence. Oui, il y a eu quelques évidences. Alors, on prend des actions qui ont beaucoup d'impact sur la population avec des niveaux de certitude qui varient beaucoup. Alors, dans la communication avec la population, il faut dire que la science, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais lorsqu'on tombe dans un domaine où il y a beaucoup d'évidence, ben là, c'est vrai. Comme vous dites, là, il va y avoir un consensus scientifique. Là, par exemple, si on parle de vaccination pour la rougeole, là, je pense qu'il y a un... Ben, je dirais, à part les États-Unis présentement, là, mais ça, on va espérer que c'est une parenthèse, là, mais qu'il y a un consensus sur le bénéfice de la vaccination chez les enfants.
Oui. Je vais terminer avec vous, professeur Malte. Vous nous avez parlé de l'apport des aînés dans notre société, des proches aidants et de l'importance du communautaire. Je voudrais que vous nous parliez de la résilience et comment on peut cultiver ça. Qu'est-ce qu'on a appris, là, après 6 ans de la COVID-19, là, sur cultiver sa résilience, qu'on soit aîné, parent ou adolescent?
Je pense que, dans le fond, ce qu'on a appris, c'est que les individus développent quand même des stratégies d'adaptation qui ont été positives par rapport à la pandémie et par rapport à ses effets néfastes, sauf qu'il y a certains groupes de population qui n'ont pas les moyens, qui n'avaient pas les moyens ni avant, ni pendant, ni après la pandémie pour faire face aux différents stress qu'ils ont vécu. Puis je pense que quand on parle de résilience aussi, il faut tenir compte qu'il y a des stresseurs, dans le fond, secondaires, comme par exemple perdre son emploi, ne plus avoir accessibilité à certains services ou tout ça, qui peuvent nuire à la résilience des individus. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ce qui peut nuire à la résilience des individus, puis quels sont les stresseurs secondaires qui font suite à, comme par exemple le confinement à domicile. Donc, c'est quoi les stresseurs secondaires qui sont associés à cet élément-là, puis comment on peut travailler à aider à faire face à ces stresseurs secondaires-là qui vont permettre, dans le fond, tout un processus de résilience de commencer à s'établir, etc. Mais j'aimerais aussi, comme avant de terminer, j'aimerais aussi vous dire que par rapport à la communication, c'est que les organismes subventionnaires n'accordent très peu d'importance, dans le fond, à la vulgarisation des connaissances puis à la formation qu'on peut faire dans le milieu de pratique en tant que scientifique. Et que à cause de ça, dans le fond, il y a certains chercheurs qui sont plus centrés sur la vulgarisation, qui vont perdre des points puis qui seront pas subventionnés parce qu'ils ont pas, ce qu'ils font, c'est pas assez considéré comme activité scientifique, cette vulgarisation des connaissances. Je pense qu'il y a une mentalité à changer et à la fois au Québec et au Canada par rapport à cette importance-là de communiquer et aux intervenants et à la population, dans le fond, nos résultats de recherche.
Oui, merci de souligner ça. On est en 2025, on s'attendrait peut-être un petit peu de support justement pour, surtout après la pandémie, pour pouvoir vulgariser les connaissances scientifiques. Merci. Donc, on était en compagnie de Daniel Malte, professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la chaire de recherche sur les événements traumatiques et la santé mentale et résilience, de Benoît Masse, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et responsable du programme de doctorat en santé publique, et d'Andrés Finzi, professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie, immunologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur responsable au CHUM. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci. Merci. Bonne journée.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation toujours et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique